Je vois un nouveau phénomène par rapport à l'avenir de la alors clean, clean beauty, bio, etc. Tout ce côté éthique, c'est aussi toute la dimension autour de la, des ingrédients frais, locaux, éthiques. Voilà.
Bonjour, bienvenue sur Beauty Toaster. Aujourd'hui, je reçois Lucile Gauthier-Brault. Lucile est directrice des tendances beauté chez Pecklers Paris. Ancienne journaliste, elle adore creuser ses sujets, réfléchir et surtout anticiper. Depuis 12 ans dans ce cabinet expert des tendances, elle décrypte les évolutions sociétales, culturelles et conso dans la beauté et le bien-être. Et comme elle est elle-même très accro à la cosméto, ça tombe plutôt pas mal. J'ai voulu l'interviewer afin qu'elle nous explique les bouleversements auxquels on assiste en ce moment dans ces secteurs et auxquels nous, consommateurs, ne sommes pas totalement étrangers. Je lui ai également demandé de nous révéler les tendances à venir et à quoi allaient ressembler nos routines beauté dans quelques mois, quelques années. Cette vision de l'intérieur va forcément vous apprendre des choses. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Lucile.
Bonjour Chantal.
Lucile, en quoi consiste le travail d'un bureau de tendance ?
Alors, déjà, le bureau de tendance, c'est vrai que c'est un terme qui a un petit peu évolué, surtout ces dernières années. C'est vrai que les bureaux de tendance existent depuis quand même quelques années. Enfin, le bureau Pecklers, pour lequel je travaille, a été créé dans les années 70. Et à l'époque, on faisait vraiment de la tendance saisonnière, très look and feel. Aujourd'hui, le métier il a évolué plutôt, je dirais même ces 5 dernières années. On fait ce qu'on appelle plutôt aujourd'hui de la stratégie créative, de l'innovation, et on parle beaucoup de prospective. Donc ça, c'est vrai que le terme, il a pas mal évolué, ça c'est important peut-être d'en parler. En gros, mon travail, c'est de rendre les marques désirables, d'anticiper en fait des grands courants, des grands phénomènes, pour qu'en fait les consommateurs, les consommatrices trouvent toujours des choses intéressantes et nouvelles, qui correspondent en tout cas à leurs besoins réels. Donc moi, mon travail, il est un peu en deux parties. D'abord, et c'est ce que tu connais, on a parlé notamment des cahiers, des publications, ce qu'on appelle les cahiers de tendance. Donc moi, je suis responsable du cahier beauté à l'agence. Et puis d'un autre côté, on fait du conseil personnalisé. Et personnalisé, ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses. Travailler pour le maquillage, le parfum, le skincare. Je peux très bien un jour faire une gamme de make-up pour une marque japonaise, réfléchir aux déodorants dans les 10 prochaines années, ou alors une marque qui a un problème, qui n'arrive pas à incarner un parfum, par exemple. Et puis là, on va les aider à trouver quel type de féminité, quelle est l'évolution du courant glamour, par exemple. Ou je veux parler d'une femme naturelle. Voilà, quelle est aujourd'hui des nouvelles aspirations importantes. Donc en fait, en gros, mon travail, il est toujours et jamais le même.
De plus en plus de marques inconnues, il y a encore ne serait-ce qu'un an, émergent malgré un marché en apparence saturé. Tu as une explication ?
Alors, c'est vrai que ce qu'on appelle ces petites marques, les indie brands, les fameuses, qui faisaient d'ailleurs un peu rigoler au départ parce que c'était un peu exotique, elles sortaient un petit peu de nulle part. Et puis, c'est vrai que peu à peu, on s'est rendu compte que ça intéressait énormément plein de gens. Et puis, les grands groupes ont commencé à les regarder de manière, à prendre en tout cas plus en considération. Pourquoi ? Je pense que déjà, elles incarnent la fraîcheur, des nouveaux concepts sur lesquels on n'aurait pas parié, qui sont souvent incarnés par des créateurs assez forts, qui ont des convictions. Je pense à Glossier, notamment, qui est quand même une marque qui incarne vraiment tout ce phénomène. Emily Wise, d'abord, c'est elle qui a créé tout, de A à Z. Elle est un visage, donc il y a de l'humain derrière. Ça, c'est important. C'est plus du consommateur au consommateur, c'est human to human. Ça, c'est très fort. C'est aussi cette idée d'être proche, d'être à l'écoute. Il y a énormément de sincérité dans ces petites marques. Elles ont vraiment aussi des valeurs fortes, des engagements, des convictions. Et elles en parlent ouvertement, elles n'ont pas peur. Et ça, c'est vrai que c'est aujourd'hui, tout ce courant d'éthique, ce besoin de se raccrocher à des vraies valeurs, c'est super important. C'est aussi des marques qui font des produits super intelligents parce qu'on sent que les gens qui le font derrière les utilisent. On parle plus du naturel, on parle de clean beauty, donc elles savent, elles incarnent en tout cas leur marque. Je pense à... Alors, je peux citer Je vois Prescription Lab, par exemple. Les produits qui sortent, on sent, c'est fait de manière super intelligente. C'est très rapide. Ils arrivent à mettre au point des choses dans des délais aussi. Il n'y a pas de process chez ces marques, dans les grands groupes. Et c'est vrai, ce qui peut être parfois un petit peu difficile, c'est que les process étant tellement longs que le temps passe. Et c'est ce qui a fait aussi le succès de toute la beauté coréenne.
Tout à fait.
La beauté coréenne, en fait, alors ce qui est un peu différent de nous en Europe, c'est qu'ils lancent les concepts. Même si ce n'est pas bordé à 100%, ils font confiance, ils lancent, quitte à perfectionner si ce n'est pas complètement au point. Mais ça va très vite. Du coup, il y a plein de choses qui sortent très vite. Ça prend pas, tant pis, on passe à autre chose. On fait vraiment confiance à son instinct. Et ça, c'est un mot qui me tient à cœur. Et puis, il y a de très belles choses qui sortent en termes d'innovation. Quand je vois ce que Nelmatic va sortir, là, les nouveaux Aqua, c'est les premiers à lancer un vernis sans solvant, qui va complètement révolutionner toute la beauté des ongles, des vernis, etc. Je trouve ça génial que ça vienne de marques, de petites marques, entre guillemets. C'est très fort. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, elles ont pris beaucoup d'importance et de poids. Et je trouve ça plutôt chouette.
Et alors, l'ultra-personnalisation, le sur-mesure et le do-it-yourself, on voit aussi que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Mmh. Est-ce que pour toi, c'est un épiphénomène ou est-ce que c'est vraiment une tendance lourde ?
Bah, même chose. Moi, personnellement, j'y crois parce que c'est une trend qu'on a développée, nous, il y a déjà un petit moment, d'ailleurs, et puis qu'on continue de développer. Alors, ce n'est pas évident de mettre en place, hein, parce que qui dit personnalisation, ça veut dire aussi changer tout le process. Il faut impliquer davantage le conso, la personne. Donc évidemment, il faut tout revoir. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place qui vont complètement dans ce sens. Tu avais reçu Nicolas Gerlier
tout à fait.
De La Bouche Rouge. Je trouve que c'est vraiment intéressant aussi tout ce travail qui est en train d'être mis en place chez eux. Je pense à des marques comme Ioma aussi, avec leurs machines qui sont extrêmement perfectionnés. Mais c'est vrai, d'avoir un soin sur mesure, on est sur du concret, évidemment. Quand on voit aussi toutes les datas qu'on récolte aujourd'hui avec tout ce que ça fait ressortir d'un côté plutôt négatif, j'ai l'impression aujourd'hui, mais il y a aussi toute cette vision beaucoup plus joyeuse qui est qu'est-ce qu'on fait de ces datas ? Est-ce qu'on peut récolter des données pour en faire des choses concrètes ? Moi, je pense que la personnalisation, notamment pour la cosmétique, c'est évidemment l'avenir de la cosméto parce qu'on n'a pas tous les mêmes peaux et c'est ce qu'on voit quand on analyse sa peau. Et moi j'ai fait le test, je me rends vraiment compte pourquoi il n'y aurait pas 50 000 crèmes différentes. Ce qui se passe aujourd'hui même avec le fond de teint, tu vois, on a 40,
oui, tout à fait.
40 teintes, on va vers, alors c'est pas de la personnalisation mais ça va quand même, ça tend vers ce genre de discours. Donc évidemment c'est pas que de la haute technologie avec des machines, mais il y a des manières différentes aussi d'adapter. Et c'est ce que tu dis avec le do it yourself. Je pourrais demain avoir envie de doser mon taux de scrub, peut-être en ajoutant 5%, enfin voilà, avec un dosage. Il y a des manières très diverses en fait de faire de la personnalisation. C'est pas que le côté très expérimental et recherche avec un grand R, bien sûr.
Et alors, on parle aussi en ce moment pas mal de la tendance végane. Il y a de plus en plus de marques qui surfent sur ce concept. Donc, végane, c'est animal cruelty free, c'est sans substance d'origine animale. Alors, est-ce que c'est éphémère selon toi ? Est-ce que c'est juste un gros coup de com' pour certaines marques ? Ou est-ce que ça s'insère dans une démarche vraiment sincère, quoi, en fait ?
Bah, y a Évidemment, quand il y a un phénomène comme celui-ci, il y a toujours la bonne version et puis il y a la récupération marketing derrière. Ça part en tout cas... alors, nous, c'est une tendance qu'on avait développée il y a 2 ans sur l'évolution du bio. Parce qu'évidemment, le bio, il y avait toutes ces notions d'éthique derrière le bio parce qu'il y a du bio, mais comment est-il fait ? C'est pas toujours, voilà, il faut bien regarder comment sont fabriqués les soins. Le vegan, pour nous, était la suite aussi logique. Il y avait tout un courant, notamment à Los Angeles, du courant vegan. Enfin, ça vient des US. Mais après, il y avait aussi Barcelone. Enfin, il y avait des villes intéressantes qui développaient énormément ce courant vegan. Évidemment, la condition animale, c'est super intéressant et important. Il faut se pencher là-dessus, bien sûr. Après, c'est la récupération qu'on en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit même des jus de fruits qui sont véganes. Et voilà, là, on tombe dans l'absurdité extrême qui fait que... Mais si on peut parler, en tout cas, de ça, bien sûr, c'est super important et intéressant. Moi, je me méfie toujours des dérives et des extrêmes qui, pour le coup, n'apportent rien. Et là, avec les changements en plus de réglementation, pardon, où on ne peut plus dire sans, je trouve aussi qu'il va y avoir encore aussi un bouleversement avec tout ça. Donc, bon, attention. Alors, c'est vrai que ce phénomène, évidemment, il est fort. Moi, je vois un nouveau phénomène par rapport à l'avenir de la... Alors, clean beauty, bio, etc., tout ce côté éthique, c'est aussi toute la dimension autour des ingrédients frais, locaux, éthiques, voilà. Parce que la clean beauty, c'est quand même ça, l'avenir. Alors, qui dit clean, dit, voilà, pas d'ingrédients néfastes pour la santé, le respect de chacun. C'est aussi qui produit comment, le respect des animaux, bien sûr, mais aussi le respect des plantes, la surproductivité. Quand je fais venir un ingrédient bio qui va entraîner plus de cultures, ou en tout cas où on va appauvrir aussi les sols, etc. Pour moi, voilà, c'est tout un ensemble de cet écosystème, en tout cas, qu'on doit prendre en compte au-delà d'un simple phénomène. Il faut voir ça dans une dimension plus globale, je pense.
Alors justement, est-ce que tu penses que les actifs d'origine chimique ont encore une longue vie devant eux ? Parce que bon, entre les actifs nocifs pour la nature, ceux qui sont nocifs pour la santé, on a l'impression que là, on arrive au bout d'un système.
Mais alors, il faut... La chimie, il faut voir deux choses, il faut dissocier plusieurs choses. Tu as d'un côté les ingrédients nocifs. Et ça, évidemment, je ne pense pas que ça va s'améliorer parce qu'on en découvre encore et que la communication faisant, les consommateurs étant de plus en plus connectés, ils savent...
Vigilants,
ils savent lire les étiquettes et tant mieux, ça c'est un vrai plus. Et d'un autre côté, il y a quand même la chimie high-tech. Il y a d'excellents ingrédients qui sont issus de la chimie, ça il faut le savoir. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des parabènes. On a enlevé tous les parabènes, mais dans les parabènes, il y avait des bons parabènes. Donc on a dû revoir toute une industrie, ouais, des process de fabrication, parce que le conso avait super peur. Mais il y a des bonnes choses dans la chimie, c'est le dosage en fait. Il faut bien sûr, c'est très bien de mettre le doigt. Là, c'était le dioxyde de titane aussi dernièrement. Enfin voilà, il y a plein de choses, mais il y a des bonnes choses aussi. Et des ingrédients high-tech, pour moi, quand on parle rétinol, enfin, il y a plein de molécules qui sont en fait de très bons actifs, notamment sur l'anti-âge. Donc bon, il faut tout, pour moi, est une question de mesure et d'équilibre. Et je pense qu'on va peut-être aller vers ce bon équilibre dans les prochaines années. En tout cas, je trouve qu'il y a quand même des marques aujourd'hui qui arrivent bien à trouver cette bonne balance et ce bon compromis. On est trop encore, je pense, dans la culture du no, le sang et le no, etc. Mais je pense que ça va aller dans le bon sens.
Et alors, depuis quelques années, on adopte des produits, des routines venues d'ailleurs. Alors, je pense au lissage brésilien qui est arrivé il y a quelques années. Je pense aux soins coréens qui font de plus en plus d'adeptes. Quel sera, selon toi, le prochain pays ou peut-être même le prochain continent inspirant ?
Ah, alors ça, c'est une grande question. Alors, c'est vrai que la beauté coréenne, là, on en a quand même eu un raz-de-marée. Mais c'est chouette parce qu'évidemment, il y a plein de choses hyper intéressantes en Corée. Ça va très vite. Moi, j'y vais régulièrement. Donc, c'est vrai que j'arrive à voir. C'est vrai que tous les 6 mois, ça va vraiment très vite. Les choses changent.
C'est-à-dire que, excuse-moi, ils sortent tous les 6 mois une nouvelle marque ou les mêmes marques sortent tous les 6 mois un nouveau produit? C'est un peu tout ça en
même
temps?
Un peu tout ça, vraiment. Et puis, tu viens 6 mois après, les boutiques ont changé de place. Enfin, ça va très, très vite, vraiment. Il y a beaucoup de nouvelles marques. Les marques disparaissent, renaissent. Enfin, c'est... Oui, c'est... Alors, nous, en tant qu'Européens, où tout est très long à mettre en place...
Ah, oui. C'était au moins 1 an pour que... Et encore, je suis en dessous de la vérité. Bon, mais
2 ans plutôt pour lancer un produit.
Voilà.
Ah oui, non, c'est un vrai... Alors, ce qui se passe dans tout ça, c'est qu'il y a aussi une dérive vers des choses parfois. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces innos? Est-ce que ce serait pas un peu futile? Bon, voilà. Donc ça, c'est un constat. Alors, nous, il y a plusieurs pays, parce qu'évidemment, ça n'arrête pas une tendance. Mais alors, d'abord, la suite de la... Donc, la K-beauty. Hein, on appelle ça la K-beauty. Nous, on croit beaucoup au Japon. On a fait toute une traîne sur ça il y a 6 mois. Pourquoi le Japon? Parce qu'il y a toute cette idée de tradition, mais là, la modernité, qui fonctionne très bien, avec beaucoup de respect, justement, des process créatifs, des ingrédients. On ne peut pas faire de surpromesses au Japon. C'est-à-dire que quand on écrit qu'un soin a telle promesse, on est obligé de l'éprouver scientifiquement.
Pourquoi? Sinon, on ne peut pas le sortir.
Non, sinon, on ne peut pas le sortir. Donc, on est vraiment sur le juste mot, la juste promesse. Donc, ça, c'est déjà vraiment intéressant. Ce sont, contrairement... Alors, ils sont très axés sur la partie naturelle au Japon. Ce qui est assez bizarre, c'est que en Corée, notamment, quand on leur parle de bio, ils ne comprennent pas. Ils font un mélange entre produits naturels. Donc, si j'ai mis, je te dis n'importe quoi, du kiwi dans une crème, elle va être naturelle. Mais ils ne comprennent pas le concept de bio, de produire des légumes sans pesticides. Cette notion, elle est compliquée pour eux à aborder. Donc, il n'y a pas de label. Donc, bon, ça, il faut faire un peu attention. Et ce qui est assez différent, en fait, au Japon, où il y a vraiment cette idée de préservation. Et puis, ils sont très forts sur toute la partie innovation, respect. Le naturel est super important aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Donc, nous, on croit beaucoup à ce déplacement de cette tendance très forte. Et puis, il y a une autre zone géographique qui nous intéresse beaucoup, c'est les pays nordiques. Les pays du Nord, notamment, qui, en termes d'imaginaire aussi, sont très riches. Il y a énormément d'ingrédients encore inexplorés. C'est pour nous aussi, ça véhicule cette notion de préservation. C'est aussi des pays qui vont souffrir du réchauffement climatique, donc on regarde un peu plus là-bas. Ce sont souvent des ingrédients ultra résistants à des environnements extrêmes. Donc ça, c'est assez fascinant aussi. Hein. Ces fameuses plantes adaptogènes qui savent s'adapter à des grands froids extrêmes, qui survivent. Donc ça, pour la peau, c'est vraiment intéressant. Voilà, on a un peu deux zones un peu clés.
Et en aparté, tu me parlais de l'importance que prend le wellness dans la cosmétique. Alors, est-ce que tu peux nous dire de quelle manière le wellness prend le pas sur la cosmétique traditionnelle?
Mais ça, c'est vrai que à travers tous les projets que je peux mener ces derniers temps et ces dernières années, je me rends vraiment compte qu'il y a une évolution de la beauté cosmétique. On avait tendance, je trouve, à séparer tout l'aspect santé et beauté. Et là, on sent un rapprochement très, très fort. D'abord, il y a eu l'avènement du sport dans la mode. Alors, nous, on regarde beaucoup ce qui se passe dans la mode parce que ça a une incidence directe sur la cosmétique. Donc, le sport a pris beaucoup de place. Quand on regarde aujourd'hui, alors, phénomène qui vient des US, mais comment le yoga a pris un poids phénoménal. Et là, on le voit dans tous les articles, les raz-de-marée. Je ne parle pas de tous les papiers sur le yoga kundalini dernièrement, etc., qui sont vraiment intéressants. La méditation. Et d'un côté, donc, on a tout ce courant bien-être d'être évidemment à l'écoute de soi. Au-delà de ce côté très cosmétique, caché, voilà, il y a quelque chose de plus intérieur. Toute l'évolution du naturel, de l'authenticité, de la true beauty, true myself, de laisser la peau, toute cette idée autour de l'authenticité, du no make-up aussi. Donc, tu as tout ce courant-là. Et puis, il y a aussi l'avènement, le retour, je trouve, de tous les suppléments, hein, cette fameuse beauté inside and out. Donc, alors qu'elle avait été lancée déjà, je dirais peut-être, oui, 8-10 ans peut-être, qui avait un peu fait un flop ici. Mais là, nous, on pense que ce serait vraiment le moment de relancer tout ça, parce que peut-être le marché est un peu plus mûr. Enfin là, on voit même là, ne serait-ce que dans... On est en plein cœur de Paris, tous ces bars à jus, toute cette cuisine bien-être, où on nous explique même dans la carte des menus les bénéfices pour la peau. Voilà, donc il y a aussi tout ce courant food qui vient se... Tout vient se merger en fait autour de cette beauté plus globale, plus holistique. Et nous, c'est pour ça qu'on enrichit là, pour notre prochain cahier aussi, vraiment de cette dimension food, bien-être, qui va prendre beaucoup d'importance dans nos travaux de recherche.
Et alors, dernière question concernant l'empowerment. Comment influence-t-il la beauté actuellement ? D'après toi, est-ce qu'il y a un lien entre cet empowerment des femmes et la beauté ? Est-ce que l'un influe sur l'autre ou...
Alors ça, c'est un... Si, forcément, c'est complètement lié, bien sûr. C'est vrai qu'il y a une évolution par rapport à cet empowerment. On a été, je dirais, depuis un an et demi, vraiment dans ce côté très revendication, le bras levé, voilà, vraiment dans ce côté presque rébellion féminine, hein, j'existe, très parfois un peu militant, enfin, carrément militant même, beaucoup voilà, dans cette... Alors, peut-être aussi dans la provocation. Bon, nous, on sent quand même un assagissement de tout ça. Les choses vont quand même s'apaiser. On le voit dans les tendances. Alors là, je ne te parle pas de tous nos travaux et tout ce qu'on sort qui nous aide à comprendre tout ça. Nous, on a pris le parti, en fait, dans nos dernières grandes tendances beauté, de parler d'un empowerment beaucoup plus positif. Joyeux, voire même glamour. Cette revendication, ces femmes fortes, féminines, parce qu'on a été, voilà, beaucoup. Alors, c'était pas on brûlait pas nos soutiens-gorge, mais il y a quand même eu cet aspect presque féministe, enfin carrément féministe. L'évolution de tout ça, et on l'a vu notamment, alors beaucoup à travers la mode, encore une fois. Ces femmes très sûres d'elles, très glamour, hyper féminines. On l'a vu notamment dans les défilés de la marque Off-White la saison dernière, où les femmes ont laissé tomber sur les défilés, on voyait ces jupes crayons, ces talons vertigineux avec ces féminités très fortes qui vient plutôt des années 90-2000, avec cet empowerment, avec ces femmes, les top modèles des années 90.
Les épaules carrées.
Voilà, carénées, cette allure. Et c'était elles, les stars de l'époque, c'était elles qui menaient complètement la danse. Donc nous, on sent un vrai retour de cette vision, est beaucoup plus joyeuse, audacieuse, glamour, complètement glamour. Et c'est vrai qu'on travaille déjà avec des clients sur ces nouveaux aspects, et c'est vrai que c'est une dimension plus, ouais, très positive. Voilà, c'est plutôt ça, je trouve, l'écho qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la beauté, et je trouve ça plutôt chouette. Ouais.
Je confirme. Bien, merci beaucoup, Lucille.
Merci, Chantal.
Au revoir.
Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur iTunes et SoundCloud et profitez-en pour nous laisser un avis et surtout une note. Perso, j'adore les 5 étoiles. N'oubliez pas également de suivre Beauty Toaster sur sa page Facebook et sur Instagram. En attendant, rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure.